Bonjour à chacune et à chacun. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin ici et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Comme vous l'avez entendu, je viens de Fribourg, je suis fribourgeois, mais aussi biennois, puisque j'ai habité 17 ans dans cette ville depuis l'âge de 3 ans. Ah, mais j'ai l'habitude, moi, de prêcher avec le masque. J'ai pris cette habitude depuis quelque temps. Comme je disais, j'ai habité 17 ans dans cette ville, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, je me suis exilé, pas très loin, à Lausanne, 17 ans aussi. Et ensuite, j'ai fait mon alia à Fribourg, puisque c'est là que je suis né, j'y suis retourné. Et j'y suis maintenant depuis 1997. Voilà, alors comme je le disais, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et comme nous sommes éloignés de Pâques que depuis une semaine, quoique, comme disait notre sœur, pour nous, c'est tous les jours Pâques, le message que j'aimerais partager avec vous ce matin est tiré d'un texte qu'on lit souvent à Pâques. Ce sont d'ailleurs les versets qui précèdent ceux qui ont été lus tout à l'heure en introduction. Et je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, à partir du chapitre 19, le verset 41, jusqu'au verset 18 du chapitre 20. Donc on commence en Jean 19, 41. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où on avait couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où on l'a mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans son récit de la mort et de la résurrection de Jésus, l'apôtre Jean mentionne un détail qu'aucun des autres évangélistes mentionne, c'est-à-dire Marc, Matthieu, Marc et Luc. Jean nous dit que le tombeau dans lequel avait été déposé le corps de Jésus se trouvait dans un jardin. Alors bon, vous me direz, un jardin, pas de jardin, qu'est-ce que ça change ? Il s'agit là d'un détail. En effet, vous avez raison si vous pensez cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean mentionne ce détail et pas les autres. Et c'est d'autant plus intéressant quand on sait que Jean avait l'art de faire toutes sortes d'allusions à l'Ancien Testament sans forcément le citer à tour de bras. C'est bien perceptible, par exemple, dans l'Apocalypse, et l'exemple le plus clair qu'on a sans doute se trouve dans l'Évangile qu'il a écrit, l'Évangile selon Jean, où il commence son Évangile par « au commencement ». Et bien entendu, quiconque a lu le livre de la Genèse s'est aperçu que Moïse, en écrivant ce livre, avait commencé exactement de la même manière. Et on en déduit que Jean a voulu mettre son récit en relation avec le livre, avec le début de la Genèse. Et ici, le fait qu'il mentionne ce détail, que le tombeau de Jésus était dans un jardin, on se dit qu'il a sans doute voulu faire une allusion aussi. Et c'est le cas, et il voulait faire un renvoi à l'endroit où avait commencé l'histoire de l'humanité. Un peu comme pour nous dire que dans ce jardin de la résurrection, un nouveau commencement était en train d'apparaître, de naître. Et bien sûr, l'endroit où avait commencé l'histoire de l'humanité, c'est le jardin d'Éden. Alors ce matin, avec vous, j'aimerais faire une comparaison entre ces deux jardins. D'un côté, le jardin d'Éden, et d'un autre côté, le jardin que j'appellerais le jardin de la résurrection. Mais commençons, si vous le voulez bien, par le jardin d'Éden. Dans ce jardin, tout avait bien commencé. Les textes nous disent que l'Éternel avait bien sûr tout créé, et puis il avait planté un jardin en Éden, et y avait placé l'homme qu'il avait formé, l'homme et la femme, bien entendu. Et puis, il leur avait donné comme mission de cultiver, de garder ce jardin, en leur donnant quelques instructions, principalement alimentaires. Il leur avait dit simplement, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-ci, vous n'en toucherez pas. En termes de loi, c'était plutôt léger. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre dans une étude d'avocat, mais quand on voit les kilomètres de volume qui contiennent des textes de loi, des règlements et je ne sais quoi d'autre, on se dit qu'au tout début de l'histoire de l'humanité, en ce qui concernait les lois, c'était plutôt léger. Tu pourras manger de tous les arbres, il y en a un, tu ne le mangeras pas. Malheureusement, la suite, vous la connaissez. Il a fallu que nos lointains grands-parents ne s'en tiennent pas à ce qui leur avait été recommandé. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous rappelle un peu le cheminement qui s'est produit alors, et il nous dit que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée dans le monde, et puis cette mort s'est étendue à tous les hommes. J'entendais il y a quelque temps en arrière un médecin qui disait à la télévision, malgré les progrès de la médecine, le taux de mortalité parmi les hommes est toujours de 100%. Et j'aimerais pas être un prophète de malheur, mais j'aimerais dire la chose suivante, jusqu'au retour du Seigneur, il sera toujours de 100%. Alors il y a des adeptes du transhumanisme qui essayent d'inverser la tendance, je leur souhaite bonne chance. C'est vrai qu'on a réussi déjà à allonger l'espérance de vie de bien quelques années. Peut-être qu'on y arrivera encore, mais le fait est là. La mort s'est étendue à tous les hommes Et depuis, eh bien, le taux de mortalité est toujours de 100%. Par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce jardin d'Éden, ça a commencé par la vie. Dieu avait insufflé à l'homme un souffle de vie, ça a commencé par la vie. Malheureusement, la mort s'en est mêlée avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. En ce qui concerne le jardin de la résurrection, les choses se passent autrement. Ça commence par la mort. En effet, celui en qui les disciples avaient mis tout leur espoir est mort. Il est enseveli, il est déposé dans ce tombeau, et le vendredi, le samedi, c'est le règne de la mort. Mais le troisième jour, nous disent les textes, c'est la vie qui reprend le dessus. Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie et il a vaincu la mort. Il a inversé la tendance, alors que dans le jardin d'Éden, la mort avait pris le pas sur la vie. Dans le jardin de résurrection, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est la vie qui reprend ses droits et qui surmonte, en fait, la mort. Et cette vie de résurrection, c'est en fait une vie avec un plus. Le plus étant qu'elle ne peut plus être atteinte par la mort. Vous l'avez remarqué, cette vie que Dieu avait communiquée à l'homme dans le jardin d'Éden, celle-là pouvait être atteinte par la mort. D'ailleurs, Dieu avait averti Adam et Ève en leur disant « Si tu manges de cet arbre de la connaissance, tu mourras ». Ce qui signifie que la vie qui était la vie du jardin d'Éden pouvait être atteinte par la mort. Mais en ce qui concerne la vie qui procède, qui part de la résurrection, celle-ci ne peut plus être atteinte par la mort. Et en fait, dans l'éternité, il y aura deux possibilités. Soit on sera du côté de la mort, et alors les textes nous disent qu'on viendra en jugement, et on sera touché par la deuxième mort, et ceux qui seront malheureusement atteints de cette deuxième mort ne pourront pas revenir à la vie. Ça ne sera plus possible. Par contre, ceux qui seront ressuscités, qui seront revenus à la vie avec Christ, ceux-là ne pourront plus être touchés par la mort, parce que cette vie qui procède de la résurrection est totalement imperméable à la mort. Et c'est pourquoi il est capital, dans la vie présente, de faire des choix, et en particulier le bon choix, c'est-à-dire de choisir la vie. Et pour nous, choisir la vie, ça veut dire choisir Jésus-Christ. Lui confier sa vie, remettre sa vie entre ses mains, parce que Jésus a dit « Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Comme on avait mangé de l'arbre de la connaissance qui a produit la mort, on peut aujourd'hui manger de la chair, alors ça signifie croire en lui, on se comprend, mais manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme, afin d'avoir la vie en lui. Et Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et encore, je suis la résurrection et la vie. » Il y a un chant dans le recueil du Djem, le 850, qui s'intitule « Christ est roi », qui dit, « Un jour, les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui, ils ont la vie. » Premier élément, donc, de notre comparaison, dans le jardin d'Éden, ça commence par la vie, mais ça se termine par la mort. Dans le jardin de la résurrection, ça commence par la mort, mais c'est la vie qui l'emporte sur la mort. Mais j'aimerais revenir pendant quelques instants au jardin de la résurrection, et je pense que ce n'est pas très difficile pour vous de vous remémorer ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden, en particulier au chapitre 3 du livre de la Genèse. Et au chapitre 3 du livre de la Genèse, voilà qu'un être apparaît, qui est le serpent, et dont les intentions étaient manifestement mauvaises. Et on s'en aperçoit très rapidement en lisant les textes. Et bien sûr, ce serpent, c'était le diable, avec les intentions qui étaient les siennes. Mais là aussi, ça nous donne une indication importante sur le jardin d'Éden, et ça nous dit que dans le fond, ce jardin ou cette création dans laquelle nous vivons encore maintenant, en fait, cette création n'était pas imperméable au mal, puisque le mal a pu s'y infiltrer. Et même si on appelle ce jardin un paradis terrestre, en fait, ce paradis terrestre n'était pas imperméable au mal. Et malheureusement, l'homme et la femme qui avaient été placés pour le garder n'y étaient pas imperméables non plus, et la suite le prouve. Mais je ne sais pas si vous arrivez bien à visualiser peut-être cette scène du Jardin d'Éden au chapitre 3, où dans les premiers versets, deux personnes occupent le devant de la scène, ou en tout cas deux êtres. L'un, c'est le serpent, et puis l'autre, c'est la femme. Et voilà que la femme est toute seule en présence de ce serpent. Et ce qui devait arriver arriva. Le serpent a déployé tout son pouvoir de séduction, et puis, prise par la tentation, la femme a cédé à la tentation quelques instants avant son mari, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, la suite, vous la connaissez, ça a été le chamboulement total qui a amené le monde à ce qu'il est aujourd'hui. Mais on revient au jardin de la résurrection. Et curieusement, dans ce jardin de la résurrection, il n'y a plus de serpent du tout. On peut fouiller par tous les endroits, pas de petites vipères, pas de serpent, sinon les traces de sa défaite. Un tombeau vide. Le diable est vaincu. Il était vaincu à la croix de Golgotha. Mais si l'ennemi n'est plus là, la femme, elle, est toujours là. Et vous le remarquez, elle est aussi toute seule. On a une femme toute seule dans ce jardin, Marie-Madeleine, qui cette fois n'est plus en présence du serpent, mais en présence du Christ. Et comme elle avait été en quelque sorte, malheureusement, le vecteur de la tentation, c'est-à-dire que c'est elle qui avait incité son mari à prendre aussi du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ici, c'est elle qui devient la première porteuse de bonnes nouvelles. Elle est en présence de Jésus, et Jésus lui dit un peu comme c'était arrivé à Ève, qui était allée vers son mari, « Va vers mes frères et dis-leur ce que tu as vu. » Un auteur chrétien des premiers siècles, qu'on appelait Hippolyte de Rome, a d'ailleurs parlé de Marie de Madeleine, puis c'est elle qui s'agit comme de l'apôtre des apôtres, c'est-à-dire celle qui a reçu la mission d'aller annoncer la résurrection de Jésus aux apôtres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit que, et il ne faut pas le nier, dans le jardin d'Éden, elle est tombée. Mais dans le jardin de la résurrection, elle est relevée. Et sans entrer dans trop de détails, je dirais que c'est avec cet arrière-plan-là qu'il faudrait par la suite lire les textes que l'apôtre Paul a écrits, notamment sur la question de la femme. Et je pense que, surtout pas le monde, mais malheureusement pas toujours l'Église non plus, n'a pris la mesure de ce que cela signifiait. Dans le jardin d'Éden, elle tombe, mais dans le jardin de la résurrection, elle est relevée, avec une mission nouvelle, annoncer à ses frères que Jésus est ressuscité. Dans le jardin d'Éden, on commence par la vie, et puis c'est la mort qui prend le dessus. Dans le jardin de la résurrection, on commence par la mort, mais c'est la vie qui reprend ses droits. Dans le jardin d'Éden, le serpent s'y infiltre. dans le jardin de la résurrection, il est totalement exclu. Dans le jardin d'Éden, la femme tombe. Dans le jardin de la résurrection, elle est relevée. Et j'aimerais, pour un troisième élément encore, revenir à ce jardin d'Éden, où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la relation, on devrait même dire la communion qui existait entre Dieu et l'homme, a été rompue. Tout à coup, Dieu a dit à l'homme, « Où es-tu ?» Et quand on pose cette question, c'est qu'en général, on s'est perdu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une foule avec votre conjoint, un ami ou autre. Puis tout à coup, voilà, il y a un brassement de foule et on se perd. Alors aujourd'hui, on a des natels, puis on appelle l'autre, puis on lui dit, mais où es-tu hein? Ça veut dire on s'est perdu, on n'est plus ensemble. C'est exactement ce qui se passe dans ce jardin d'Éden. Tout à coup, la communion entre Dieu et l'homme est rompue à cause du péché. Mais dans le jardin de la résurrection, il y a une inversion également de ce phénomène. Et Jésus parle à la femme en lui disant « Va vers mes frères ». Et puis ensuite, il lui dit « Ne me touche pas ». Il faudrait comprendre « Ne me retiens pas, surtout pas forcément, ne me touche pas du tout physiquement, mais ne me retiens pas ». Parce qu'il lui dit « Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père » et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est-à-dire, ce Dieu avec qui on avait perdu le contact, eh bien, cette relation est totalement restaurée. Il est aujourd'hui non seulement notre Dieu, mais il est surtout notre Père. Dans le jardin d'Éden, la communion entre Dieu et l'homme est brisée. Dans le jardin de la résurrection, elle est totalement restaurée. Alors vous avez sans doute déjà compris que ce jardin de la résurrection est en fait un prototype de la nouvelle création. Un jour, de nouveaux cieux et une nouvelle terre prendront la place et on a dans ce jardin de la résurrection une sorte de démonstration en petit de ce que sera cette nouvelle création. C'est-à-dire que la mort ne sera plus, le serpent sera définitivement exclu et la relation entre Dieu et l'homme sera totalement restaurée. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est à partir de ce jardin de la résurrection que commence la nouvelle création. C'est-à-dire que la page du jardin d'Éden est définitivement tournée. Pour les nostalgiques qui aimeraient y retourner, j'aimerais vous dire, ne pensez plus à l'Éden. Il y a autre chose qui se profile et qui est en fait meilleure. La page du jardin d'Éden est définitivement tournée et on regarde en direction des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Et pour mettre en place cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, Dieu prend le chemin inverse de celui qu'il avait pris dans la création actuelle. C'est-à-dire que dans la création actuelle, Dieu a créé tout l'environnement, l'univers, la terre et tout. Et puis, il a créé l'homme et l'a placé dans ce jardin. En ce qui concerne la nouvelle création, ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire que Dieu commence à recréer ce qu'il avait déjà créé, mais en partant cette fois du cœur de l'homme par le biais de la nouvelle naissance. Dieu fait de nous de nouvelles créatures, ce qui fait que nous pouvons devenir partie prenante de cette nouvelle création. Et l'apôtre Paul nous en indique le chemin. En 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et par si quelqu'un est en Christ, ce que Paul voulait dire, c'est si quelqu'un a la foi en Christ. On est en Christ du moment qu'on a la foi en Christ. Et lorsqu'on a la foi en Christ, on devient compatible avec la nouvelle création. Et ce monde à venir, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre qui nous attendent ne sont en effet pas un retour à l'Éden, mais c'est la nouvelle Jérusalem. Et curieusement, dans cette nouvelle Jérusalem ne sera pas comme le monde actuel, qui est, comme je le disais tout à l'heure, perméable au mal. Cette nouvelle Jérusalem sera totalement imperméable au mal. Et le texte de l'Apocalypse le dit clairement, en disant que rien de souillé, rien d'impur n'y entrera, quand bien même ses portes ne se fermeront pas, parce que la gloire de Dieu l'éclaire et le flambeau est l'agneau est son flambeau. Et cette nouvelle Jérusalem, mes chers amis, c'est votre avenir, à vous qui croyez en Jésus-Christ. Amen.